avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins et de voisines, l'école à la radio. Bienvenue à tous les enfants qui nous rejoignent, qui sont en vacances scolaires cette semaine. Chez nous, la classe est variée, amusante. Il y a des devinettes, des jeux. Aujourd'hui, c'est l'enseignante Laurence Girard-Guilaine qui est avec nous. Comment employer et écrire le conditionnel présent ? Écoutez le message de cet élève au Sénégal qui manie à la perfection le conditionnel pour émettre un souhait.
Bonjour Elfie, bonjour Emmanuel, je m'appelle Ibrahim Ndiaye, j'ai 13 ans, élève en classe de CM2. Je voudrais vous transmettre ce que je voulais apprendre à l'école. C'est la matière géographie parce que je voudrais connaître les qualités de mon pays pour quand je serai grande, je pourrais y raisonner pour aider mon pays à aller de l'avant.
Super Ibrahim, j'espère que tu es prêt. Le matériel, très simple, il vous faut tous les enfants des crayons, une feuille blanche ou de l'ardoise, de la craie. C'est largement suffisant pour apprendre le conditionnel présent. En deuxième partie d'émission, le guide de survie des débrouillards pour acquérir des connaissances scientifiques. Aujourd'hui, comment survivre au temps ? Est-ce que par exemple, on peut faire passer le temps plus vite ? On serait par exemple bien après le coronavirus, ça serait pratique. Raphaël et Massy, nos amis de Radio-Canada, discutent de la notion du temps avec notamment l'astronaute David Saint-Jacques qui a dû attendre 9 ans après avoir été sélectionné pour aller dans l'espace. Alors 9 ans, c'est long ou c'est court ? Les enfants, n'oubliez pas de réagir à nos émissions, de poser toutes vos questions, de nous raconter ce qui vous intéresse aussi dans la vie et ce que vous aimez apprendre. Appelez-nous sur le WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, l'école à la radio.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un mode de conjugaison, c'est celui des hypothèses, des envies, des rêves. Alors les enfants, vous préparez vos crayons ou vos ardoises, vos papiers, et puis surtout, vous allez vous donner le droit de rêver. Et on va rêver avec qui ? Avec Laurence Girard-Guilaine. Bonjour Laurence.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
En fait, quand on parle de conjugaison, qu'est-ce qu'il faut bien se mettre dans la tête ?
On parle du présent, du futur, de l'imparfait, mais on oublie souvent de préciser le mode. Et pourtant, c'est important. À l'école primaire, on étudie le mode indicatif. On apprend le présent de l'indicatif, le passé composé de l'indicatif, le futur de l'indicatif, etc.
Oh là, attendez, vous en dites des choses là. Le passé composé de l'indicatif, d'accord, le futur de l'indicatif, oui bien sûr, et le présent de l'indicatif. Ouais,
voilà,
on est d'accord.
À l'oral, en fait, quand on parle, il y a deux autres modes. Le subjonctif que l'on utilise mais qui est difficile, mais surtout un autre mode que l'on utilise très souvent, c'est celui du conditionnel. Par exemple, si on dit « je mangerai bien une glace ».
C'est-à-dire « j'ai envie de manger une glace, rêve de manger une glace, voilà. Tellement il fait chaud ».
Ce n'est pas une certitude, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais qui dépend d'autres conditions. C'est pour ça qu'on l'appelle le conditionnel. Je vais donc proposer, pour commencer, aux enfants un petit jeu qui raconte qui l'on est à travers ce que l'on serait, en utilisant le présent du conditionnel. C'est ce qu'on appelle un portrait chinois.
Un portrait chinois. Vous êtes prêts, les enfants ? Pas trop vite, Laurence, sinon ça va râler dans la démocratie des enfants. Ils vont poster des messages WhatsApp.
Bon, moi, je vais vous dire le début d'une phrase qui commence par « si j'étais ». Et vous, vous allez la continuer, les enfants, en employant le conditionnel. « Je serai ».« Je serai » qui se termine par « A-I-S ». Je profite de ce petit jeu pour vous rappeler une phrase bien connue. Les « si » ne vont pas avec les « ré ».
Ah bon ?
Mais non. Fréquemment, on entend des erreurs de langage. Moi, par exemple, dans ma classe, souvent, j'entends les petites filles me regarder et me dire « Ah, maîtresse, moi, si je serais grande, j'aurais des chaussures avec des talons. »
Ouais, « si je serais une princesse. » Ben non,
voilà,
non mais... tu peux être une princesse, mais pas si je serais.
Voilà, moi, alors, moi, je leur rappelle qu'après le mot « si », on n'aimait pas « ré ». Donc on doit dire « maîtresse, si j'étais grande, je mettrais des chaussures avec des talons ». Et je suis sûre d'ailleurs que les enfants qui nous écoutent pourraient facilement trouver comment continuer cette phrase. Ils ont tous des rêves. Moi, si j'étais grand ou si j'étais grande, j'aurais...
J'aurais...
À chacun de voir ce qu'il aurait. On va commencer sur le même principe, le petit jeu.
Alors attention, après le « si », pas de « ré ».
Voilà, donc c'est moi qui commence. Alors, si j'étais, et non pas si je serais, si j'étais un insecte. Vous, vous reprenez la phrase et vous la continuez en disant « Si j'étais un insecte, je serais... »
Je serais... Allez, rêvons, vous avez dit qu'on avait le droit de rêver, Laurence. Oui. Serais une libellule pour moi.
Ah, vous seriez une libellule. Et vous aussi,
Laurence.
Et moi, si j'étais un insecte, je serais une abeille.
Pour faire du bon miel.
On peut, avec les plus grands, expliquer pourquoi. Alors, Emmanuel, pourquoi seriez-vous une libellule ?
Eh bien, moi, je serais une libellule parce que il y a des couleurs très changeantes sur la libellule, avec la lumière, le soleil.
Vous aimeriez marcher sur l'eau ?
Pourquoi pas ?
Moi, si j'étais un insecte, donc, je serais une abeille pour avoir une belle robe jaune et noire et pour fabriquer du bon miel. Et vous, les enfants, si vous étiez un insecte ?
Vous avez réfléchi, les enfants, si vous étiez un insecte. Alors, chacun se dit dans sa tête, si j'étais un insecte, je serais... Et on est toujours au conditionnel, hein, on est bien d'accord, ça ne peut pas d'ailleurs se réaliser, vous ne pouvez pas vous transformer en insecte.
Enfin, oui, j'espère. Mais le conditionnel, c'est justement le temps qui permet de rêver et d'imaginer. Alors, on peut continuer. Moi, si j'étais une couleur, je serais...
Si j'étais une couleur, moi, je serais le vert pour rêver à la verdure.
Eh bien, dans le même ordre d'idées, moi, je serais le jaune. Hein, le jaune du soleil, dont on manque souvent en hiver en France. Bon, on pourrait continuer encore longtemps comme ça. Si j'étais un dessert, si j'étais une personne célèbre, hein, si j'étais un pays, etc. Mais ça, vous vous amuserez après l'émission avec le conditionnel en jouant au « si j'étais ».
Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est tous les pièges qui nous attendent avec le conditionnel.
Voilà, alors maintenant, on va travailler un peu parce que ça paraît tout simple comme ça. Mais la difficulté, c'est qu'on peut le confondre avec le futur, notamment à la première personne du singulier. Prenons deux exemples. Demain, j'irai bien à l'école en vélo.
Demain, j'irai bien à l'école en vélo.
Et la deuxième phrase, c'est « Oh, demain, j'irai bien à l'école en vélo. »
Demain, j'irai bien à l'école en vélo. Voilà, je les ai lus, vous avez entendu, avec un ton très neutre. Hein. Voilà, donc, c'est les mêmes phrases pour moi.
C'est
à l'oral, c'est la même chose.
Exactement. Si on ne change pas le ton, c'est la même chose. C'est pour ça que moi, j'ai bien pris deux tons différents.
Ah, demain, j'irai bien à l'école en vélo. Ça serait tellement bien.
Et donc, si je commence par « Demain, oui, oui, j'irai bien à l'école en vélo. »
Ça, c'est sûr, ça.
Voilà.
Ça va se faire.
C'est ça, c'est sûr, donc c'est le futur. Voilà, cette phrase est au futur. Donc, « j'irai », si on le voit écrit, ça s'écrit « I-R-A-I ».
A-I, le futur.
Voilà. Et la deuxième phrase, à quel temps est-elle ?
Ah, alors, si seulement j'irais bien à l'école en vélo, ça serait bien. Ben ça, c'est un rêve, c'est un désir.
C'est ça, c'est à la condition que maman soit d'accord. Donc, c'est au conditionnel. Ici, c'est le présent du conditionnel.
Et pas la même terminaison, du
non,
coup ?
Non, ça s'écrit A-I-S.
J'irais A-I-S et non pas A-I pour le futur.
Alors, voilà.
Comment savoir, comment mémoriser cette petite règle ? Quand c'est le futur, c'est AI, pour la première personne du singulier. Hein. Et quand c'est le conditionnel, c'est AIS. Comment savoir ?
Alors à l'oral, c'est le ton qu'on emploie qui permet de montrer si c'est le futur ou le conditionnel. Mais à l'écrit, au futur AI, au conditionnel AS. Moi, je vais vous donner une petite astuce rapide pour savoir si c'est bien le conditionnel. Moi, à la place de « je mets « tu ». Donc, on va reprendre les phrases et on va voir ce qui change. Demain, oui, oui, c'est sûr, j'irai bien à l'école en vélo. Avec « tu », ça donne « demain ».
Tu iras bien à l'école en vélo. C'est la maman qui s'adresse à son enfant. Et je te dis que tu prendras ton vélo demain.
Voilà, tu iras, AS, donc c'est du futur, tu iras, on l'entend. Ira, c'est le futur. Donc, si tu iras, c'est le futur, j'irai. Dans cette phrase est également du futur, donc AI. Ça, il faut les apprendre par cœur, les terminaisons. Et l'autre phrase, « Oh, demain, j'irai bien à l'école en vélo !» Avec « tu », ça donne « demain, tu irais, avec AS. Si maman était d'accord, c'est pour ça que j'ai dit « tu irais, Si maman était d'accord, bien à l'école en vélo. Donc c'est du conditionnel. Et le S de si, on le remet après le irait.
Et donc c'est ce fameux S qui différencie le futur du conditionnel. Moi je me suis fabriqué un petit film comme ça. Vous avez dit, Laurence, qu'on avait le droit de rêver avec le conditionnel. Donc si on a un peu le droit au rêve, je me rajoute une petite lettre comme un S par exemple. Hein. Et s'il n'y a pas de rêve, c'est du futur, c'est plus plat, c'est moins marrant. Donc il n'y a pas de S, donc c'est AI.
Voilà.
Ça vous va ?
Très bien. Mais est-ce que vous les connaissez, les terminaisons du conditionnel ? Parce qu'il faut forcément les savoir par cœur. Je vais quand même vous les rappeler. Il faut savoir que les terminaisons du conditionnel sont les mêmes que celles de l'imparfait. Donc avec « je », c'est « a-i-s ». Avec « tu », c'est également « a-i-s ». Avec « il », « a-i-t ». « i-o-n-s », « i-e-z », « a-u-n-t ».
On va peut-être proposer aux enfants, n'allons pas trop vite, d'écrire le verbe chanter.
Oui.
Vous écrivez chanter, C-H-A-N-T-E-R. Donc vous l'écrivez à l'infinitif. Et pour vous, ça, chanter à l'infinitif, vous appelez ça comment, Laurence ?
En fait, ce sera la base verbale, puisque c'est la base avec laquelle on va conjuguer au conditionnel présent.
On vous laisse le temps d'écrire le mot « chanter ». Et ensuite, on rajoutera avec une couleur différente…
Les terminaisons.
Les terminaisons. Donc, vous avez bien écrit le mot « chanter », C-H-A-N-T-E-R. Et vous prenez un autre crayon de couleur pour écrire les terminaisons. C'est très important de changer de couleur pour apprendre.
Oui. Oui, on va. Mais c'est comme les cartes mentales, en fait. Les couleurs, ça permet de mieux mémoriser. Donc, si il faisait beau, je chanterais. A-I-S. A-I-S. S'il faisait beau, tu chanterais. A-I-S également. S'il faisait beau, il chanterait. A-I-T. S'il faisait beau, nous chanterions. I-O-N-S.
Donc, toujours la base verbale, chanter, et vous rajoutez I-O-N-S, première personne du pluriel.
Oui. Vous chanteriez. S'il faisait beau, vous chanteriez. I-E-Z. Et enfin, s'il faisait beau, il avec un S ou elle avec un S chanterait. A-I-E-N-T. Donc, je chanterais. A-I-S. Tu chanterais. A-I-S. Il chanterait. A-I-T. Nous chanterions. I-O-N-S, vous chanteriez I-E-Z, il chanterait A-I-E-N-T.
On voit bien que le conditionnel, ça sert pour évoquer quelque chose d'imaginaire, une hypothèse, hein. Rien n'est moins sûr. Mais est-ce que finalement, Laurence, il y a d'autres situations dans lesquelles on peut employer le conditionnel ?
Oui, bien sûr. Par exemple, quand on demande poliment à quelqu'un « Pourrais-je avoir un café ?»
Oui, enfin ça veut dire quand même qu'on aimerait beaucoup avoir un café. Quand
on
même.
Aimerait beaucoup,
mais
on a
est
peut-être
poli,
besoin.
Alors bon. Évidemment, on ne se voit pas dire dans un restaurant « Donne-moi un café !»
Voilà, exactement.
« Pourrais-je avoir un café ? » Est-ce qu'éventuellement, je pourrais avoir un café ?
Voilà, et dans ces cas-là, « Pourrais-je ?» s'écrit 2-R-A-I-S.
Conditionnel. C'est...
À la première personne.
Donc ça, c'est la politesse qui sert aussi pour le conditionnel, ou plutôt le conditionnel qui sert pour marquer la politesse.
Voilà, au service de la politesse. Quand on fait un reproche, qu'on donne un conseil aussi, par exemple, tu devrais te reposer.
Hein. Ah oui, tu crois ? Oui.
Je pense.
Ouais. Tu devrais te reposer. Suis mon conseil.
Voilà, tu ne le feras peut-être pas, mais moi, je pense que tu devrais le faire.
Donc, A-I-S. Toujours du conditionnel. A-I-S.
On utilise aussi le conditionnel pour faire une proposition ou pour émettre un souhait, comme je l'avais dit tout à l'heure. J'aimerais manger une glace, j'aimerais, ce n'est pas sûr, mais j'aimerais. Et si tu m'entends et si tu as envie de me faire plaisir, donc j'aimerais A-I-S.
Alors, la politesse, le conseil, la proposition, tout ça demande du conditionnel si on veut voir ses vœux exaucés, bien sûr.
Oui. Donc, vous voyez, on l'utilise assez souvent, finalement. Hein.
7 milliards de voisins,
c'est sur RFI.
Tout le monde est voisin.
Voilà, nous allons donc maintenant faire un autre petit exercice. Moi, je vais vous dire des phrases et vous allez devoir trouver si elles sont au futur simple de l'indicatif ou au conditionnel présent.
Alors, futur ou conditionnel.
Et pour cela, vous allez vous aider de la petite astuce en remplaçant le « je » par le « tu ». Première phrase. Si je mettais mes lunettes, je verrais mieux. Si je mettais mes lunettes, je verrais mieux. Donc,
alors,
le début, vous savez, c'est pas du conditionnel. Si je mettais, c'est de l'imparfait. Donc, on prend la deuxième partie. Donc, je verrais mieux.
Est-ce que c'est du futur ou du conditionnel ? Je verrais mieux. Comment savoir si on a un doute ?
Donc, Emmanuel, nous allons changer le je par le tu. Si tu mettais tes lunettes,
Tu verras du futur ? Tu verras mieux ? Ah non, ça fait bizarre, hein.
Ben non, c'est si tu les mets que tu verras mieux. Mais si tu les mettais, tu verrais mieux.
Donc, on emploie bien le conditionnel.
Voilà. Et comme ça, on sait qu'après « je », on mettra « AIS ». « Je verrai », donc « AIS », conditionnel. Deuxième phrase. « Je viendrai avec mes amis ». Alors, avec l'astuce, on change « je » par « tu ». Donc les enfants, pour vous, est-ce que c'est du futur ou du conditionnel ?
Je viendrai avec mes amis, si on le remplace par la deuxième personne du singulier. Tu viendras avec tes amis, là c'est du futur.
Voilà, tu viendras, donc futur. Donc en fait la phrase « je viendrai avec mes amis » s'écrit « AI ». Troisième exemple, je te donnerai une récompense si tu étais sage.
Ah, peut-être, ça pourrait se faire. Bon, là, il y a déjà un « si », donc on se doute bien que c'est pas automatique, hein, la récompense.
Donc, on a peut-être envie de garder juste la première partie de la phrase. Allez, on essaie avec « tu ». Donc, « tu me donneras une récompense ». Ben, « tu me donneras une récompense », ça marcherait si on n'avait pas la fin de la phrase. Mais là, tu me donneras une récompense si je suis sage, pourquoi pas. Ou alors, tu me donnerais une récompense si j'étais sage. Donc en fait, les deux fonctionnent. On pouvait mettre le futur et le conditionnel. Parfois, en effet, c'est le sens de la phrase en fait, qui va nous indiquer si c'est du conditionnel ou du futur.
Un autre exemple, Laurence.
J'apprendrai bien ma leçon.
Bah, j'apprendrai bien ma leçon, ça peut être une promesse faite à sa maman. Tu verras, j'apprendrai bien ma leçon, j'aurai donc une bonne note, tout va bien se passer, c'est de la certitude, c'est du futur.
Ah, donc voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Est-ce que c'est du conditionnel ? Est-ce que c'est une hypothèse ? Oh, j'apprendrai bien ma leçon. Ouais. Non,
parents ont envie que ça soit du futur et c'est pas du conditionnel.
On peut mettre la petite astuce, donc
tu apprendrais,
non,
ou tu apprendras.
Voilà, tu apprendras, tu n'as pas le choix, tu apprendras bien ta leçon pour avoir ensuite de bons résultats et pour pouvoir après progresser et apprendre de nouvelles choses. Un peu dans le même esprit, un cinquième exemple. Et là, je crois que c'est la maman qui parle. Tu pourrais quand même réviser tes leçons.
Hein, tu pourrais quand même réviser tes leçons. Alors, dans quel cas de figure nous sommes ? Ça sent un peu le reproche, hein, ça, quand même. Hein.
Oui, c'est ça. C'est une maman qui voit son enfant qui joue dans la cour avec les petits cailloux.
Ouais, qui travaille pas du tout, qui prépare pas ses leçons, qui révise pas ses leçons. Tu pourrais quand même réviser tes leçons. Ça veut dire dans le fond que c'est un conseil un peu...
Sous forme de reproche quand même. Et donc, c'est pas une certitude. Enfin, la maman est certaine qu'il devrait réviser ses leçons. Mais là, on est dans le conseil. Tu pourrais donc conditionnel.
A-I-S.
Voilà, tu pourrais quand même réviser tes leçons. Au futur, ça aurait fait... Tu pourras quand même réviser tes leçons.
Non, ça ne va pas.
Là, c'est vraiment si la maman reproche, qui n'est pas contente. Et
il nous faut du conditionnel. Le reproche est encore plus difficile.
À formuler ou à recevoir.
À recevoir, bien sûr. Je me mets à la place des élèves. On peut faire beaucoup de devinettes comme ça entre le conditionnel et le futur. C'est infini.
On peut vraiment s'amuser. Donc, je vais vous lire un petit poème, le petit poème de Claude Roy. Et on va, nous, ensuite, dernier jeu de l'émission, on va le continuer ensemble. Je vous lis son poème.
Écoutez bien, les enfants, c'est un très joli poème de Claude Roy.
Si les poissons savaient marcher, ils aimeraient bien aller le jeudi au marché. Si les canards savaient parler, ils aimeraient bien aller le dimanche au café. Et si les escargots savaient téléphoner, ils resteraient toujours au chaud dans leur coquille. En fait, la structure de ce poème est toujours la même. C'est une phrase qui commence par « si », suivie d'un verbal imparfait, on l'a vu, les « si » n'aiment pas les « ré ». Puis une deuxième phrase au conditionnel. Donc je vais vous proposer des débuts de phrases et je vous laisserai inventer leur suite. Alors, si l'éléphant d'Afrique avait des ailes, si l'éléphant d'Afrique avait des ailes...
Ah ben ça, il en ferait des choses. Mais enfin, avec son poids, je ne sais pas s'il pourrait faire... S'il pourrait voler si bien que ça.
Justement, avec les ailes, eh bien, moi, je pense qu'il pourrait... Il rendrait visite à son cousin d'Asie.
Il rendrait, Haïté, visite à son cousin d'Asie. On est bien sur le conditionnel.
Et si le lion avait des nageoires?
Des nageoires pour un lion, ça c'est, on est vraiment dans le domaine du rêve. Si le lion avait des nageoires, peut-être qu'il croquerait moins d'animaux, mais il s'attaquerait aux poissons.
Aux poissons. Donc si le lion avait des nageoires, il pourrait, alors je laisse les enfants inventer ce qui leur passe par la tête, ce qui les amuse le plus surtout. Et si le singe avait une trompe?
Ah, les enfants, réfléchissez bien. Si Laurence a une imagination débordante, il faut le savoir. Si le singe avait une trompe, que ferait-il?
Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il aspirerait le nectar des fleurs géantes, par exemple.
Conditionnel, encore une fois.
Il aspirerait, Haïté. Si le crocodile avait peur de l'eau.
Si le crocodile avait peur de l'eau. Eh bien, il ne se jetterait plus dans la rivière pour dévorer les jambes des enfants qui traînent et qui vont se baigner. Ça serait déjà pas mal.
C'est ça, les rivières deviendraient tranquilles, des lieux de baignade sereins.
Les rivières deviendraient tranquilles. Conditionnel à la troisième personne du pluriel.
Si le crocodile avait peur de l'eau au singulier, si les crocodiles avaient peur de l'eau au pluriel. Et nous en France, on dit avec des si, on mettrait Paris en bouteille.
Ça, c'est vrai. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ça risque pas d'arriver.
Et ça, c'est une expression qui montre qu'en fait, il faut vivre avec la réalité. Parce qu'on pourrait toujours changer plein de choses. Et il suffirait d'un petit si pour changer notre vie.
Avec vous, Laurence, en tout cas, on a bien rêvé, mais on a surtout beaucoup appris sur le conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On essaie de se souvenir.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait au début avec les enfants? On a construit un portrait chinois en utilisant le présent du conditionnel. Vous vous rappelez? Si j'étais, voilà, si j'étais un animal, je serais, voilà. Ça, c'est un portrait chinois.
Et on se souvient qu'avec le si, il n'y a pas de ré. Donc, c'est pas si je serais, c'est bien si j'étais.
Si j'étais. Toujours l'imparfait après le si. Puis, nous avons vu que le conditionnel présent, c'est un temps qui s'utilise souvent, notamment pour donner un conseil, pour émettre une hypothèse ou surtout pour demander quelque chose poliment. Pour l'écrire, on pense à ajouter à notre base verbale les terminaisons de l'imparfait. Donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Et pour choisir, quand on n'est pas sûr avec je, quand on ne sait plus si on met AI ou AIS, on remplace le sujet par tu.
On remplace le sujet par la deuxième personne du singulier, le tu, et on voit bien si ça fait bizarre ou pas.
Exactement, voilà, moi je reviendrai bientôt.
Ça, c'est sûr que vous reviendrez. Donc c'est pas du conditionnel à mon avis, Laurence, parce que pour laisser planer le doute ou le rêve, il faudrait dire « Je reviendrai à Yes bientôt si seulement les enfants réclamaient votre présence ». Mais tout le monde a voté pour votre tour, Laurence, donc ça sera bien du futur. Vous revenez, vous reviendrez à l'école, à la radio.
Donc AI, au futur.
On vous retrouve vendredi prochain, Laurence, pour apprendre à écrire les nombres en lettres. L'orthographe des nombres, ça c'est un vrai casse-tête qui va devenir presque simple avec vous, Laurence Girard. Et d'ici là, je propose une récré musicale et puis ensuite on enchaîne avec les débrouillards, Massy, Raphaël, qui survivent à tout avec leur super connaissance. Et aujourd'hui, ils nous parlent du temps qui s'écoule, infini et vertigineux.
T'as déjà tant parlé d'amour, d'ondes légères, de grands frissons, de cœur lavé dans le velours. J'attends parler d'amour, de ses colères, de ses prisons, de cœurs qui s'abîment tour à tour. À demi nu, à demi mot, je me cache quand tu te dévoiles. Je n'en dis pas plus, n'en dis pas trop. À demi-mot, à demi-nu, je me livre quand tu te taires. Je n'en dis pas trop, n'en dis pas plus. T'as déjà tant parlé de toi, crié tes faiblesses, tes démons, flanqué ta pudeur au combat. J'attends parler de toi, grimé en toute discrétion, en te montrant presque du doigt. À demi nu, à demi mot, je me cache quand tu te dévoiles. Je n'en dis pas plus, n'en dis pas trop. J'attends chanter la vie aux couleurs des quatre saisons, laissant passer le temps qui fuit. J'ai déjà tant chanté la nuit, sa robe noire pour horizon, à la lueur.
À demi-mot,
Alex Toucourt, JP Nataf, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Après le conditionnel présent, on en termine avec l'éventualité. Nous allons chercher à comprendre vraiment tout de suite comment file le temps. Si vous avez l'heure sur le téléphone à côté de vous, commencez à vous poser des questions. Et on écoute Raphaël et Massy, le guide des débrouillards. Vous allez tout apprendre sur le temps.
Raphaël, est-ce que je peux te demander ce que tu fais?
Oui, j'appelle juste la compagnie d'Internet. Là, je trouve que le réseau est vraiment lent, puis j'aimerais ça qu'il règle le problème.
C'est vrai qu'il est lent, mais on doit commencer l'épisode, hein?
Oui, mais 2 minutes, là, ça sera pas long, puis ça va être réglé, ça va faire du bien.
Bonjour. En raison d'un nombre anormalement élevé d'appels, il se peut que les délais d'attente soient plus longs que la normale.
Non.
Vous êtes le 348e appel en attente.
Quoi?
Merci de rester en ligne.
Voyons, 348e appel en attente? Mais c'est interminable!
Bon, ben, je pense que pendant que t'attends, on a le temps de faire notre épisode.
Ah, vu de même. Salut, je m'appelle Raphaël.
Et moi, c'est Massy.
Vous écoutez
le guide de survie des débrouillards. Le balado scientifique qui vous aide à faire face aux situations périlleuses et désagréables qui vous guettent à chaque instant.
Et aujourd'hui, je me demande si je vais pouvoir survivre à cet interminable appel.
En fait, on veut surtout savoir comment survivre quand le temps passe trop lentement. Que ce soit dans la voiture, en classe, durant une épreuve difficile ou même, pour certaines personnes, dans l'espace. Il y a plein de moments où le temps peut paraître vraiment long.
Mais hein.
Mais ça aussi, on peut y survivre.
Merci. Quand on a du plaisir, là, on dirait que ça passe toujours trop vite. Mais quand on s'ennuie ou qu'on attend, là, le temps a l'air de passer plus lentement.
Ça, c'est vrai. Je me souviens quand j'étais petit et qu'on partait en vacances en famille, je trouvais toujours le trajet en voiture beaucoup trop long. Mais ma mère, elle demandait jamais à toutes les 5 minutes à mon père quand est-ce qu'on arrive.
Pour un enfant de 5 ans qui s'ennuie en voiture, c'est très dur de comprendre ce que ça signifie quand on lui dit « on va arriver dans 1h30 ». Parce que pour lui, le temps, ça veut rien dire. Alors qu'en vieillissant, ben, on apprend que 1h30, c'est à peu près la longueur d'un film, puis qu'être pris en voiture, ben, c'est juste temporaire.
Mais on va se le dire, Raphaël, c'est vrai que des fois, il y a des situations qui sont juste trop longues.
Ah oh, oui, j'ai plein d'exemples en tête.
moi aussi.
Je pense que mes exemples sont meilleurs que les tiens.
Tellement pas, ça sent la...
Bataille de faits!
OK, Raph, c'est moi qui commence. Premier exemple, le plus long moment passé dans une boîte remplie de cubes de glace. Ce record a été établi par un Autrichien en septembre 2020. Il ne portait qu'un maillot de bain et il est resté 2h30 dans la boîte.
2h30, c'est pas si long que ça. J'ai quelque chose de beaucoup mieux. Le plus long vol d'avion sans escale, ça, c'est long. 19h19. Ça, c'est assez long pour écouter 9 films.
Mm-hmm.
Alors, c'était juste un vol d'essai pour voir si les passagers et l'équipage pouvaient supporter un vol aussi long.
Quand j'y pense, 19h19, c'est rien. J'ai un autre record pour toi. Connais-tu Jeremy Harper?
Non.
Eh bien, c'est un Américain qui a décidé de compter jusqu'à 1 million. Il a fait ça en 2007 en direct sur Internet. Il comptait à haute voix 16 heures par jour. Il sortait pas de chez lui et s'arrêtait seulement pour dormir ou prendre une petite pause café une fois de temps en temps. Au total, ça lui a pris 89 jours pour se rendre jusqu'à 1 million. Imagines-tu comme ça devait être long?
OK, mais j'ai quelque chose d'encore plus long.
Je te crois pas, hein?
Une expérience scientifique qui dure depuis 93 ans, Massy.
Quoi?
C'est dur à croire, hein? L'étude a été lancée en 1927 à l'Université du Queensland, en Australie, et elle continue encore aujourd'hui. C'est l'expérience de la goutte de poids.
La poids de goutte de... C'est quoi?
Alors, la poix, ça s'écrit P-O-I-X, c'est une sorte de goudron ou de résine qui est tellement épaisse qu'on peut la briser au marteau. Et l'expérience vise à déterminer justement si la poix est une substance solide ou bien un liquide qui s'écoule très lentement. Donc, on a placé de la poix dans un entonnoir posé au-dessus d'un pot en verre. Et là, ben, on regarde et on attend pour voir si la poix va s'écouler à travers l'entonnoir ou rester en haut comme un solide.
OK, et puis?
Ben la poix s'écoule. C'est juste qu'elle s'écoule très lentement. Il a fallu attendre 8 ans...
8 ans?
...pour que la première goutte se forme et tombe. Et malheureusement, quand ça s'est produit, ce moment historique, personne n'était là pour la voir tomber.
Mais c'est dommage quand même. Je veux dire, pauvre petite goutte, personne n'était là pour voir son exploit.
Je pense que je vais tomber! Ça s'en vient! Ta-da! Vous avez vu? Il y a quelqu'un?
Il n'y avait personne non plus pour assister aux gouttes suivantes qui se produisent à chaque 10 ans environ. Et lorsqu'enfin on a installé une caméra pour filmer la goutte en permanence, il y a eu une panne de courant quand la goutte est tombée. Donc la caméra ne marchait même pas.
Non!
C'est seulement en 2013 qu'on a enfin réussi à filmer la chute d'une goutte de poids.
Wow! Ça va durer encore longtemps?
Ben, il reste assez de poids dans l'entonnoir pour que l'expérience continue pendant au moins un siècle!
Bon, Raphaël, est-ce que la compagnie d'Internet a répondu à ton appel?
Attends, je vais écouter.
Votre appel est important pour nous. Vous êtes le 259e appel en attente.
Ah, ben non, je suis toujours en attente, mais c'est plus la même musique. Bon, ben, en attendant, Massy, je te propose un quiz.
Wouhou!
Tu sais, aux Olympiques, on mesure les courses en dixièmes de seconde ou même en centièmes de seconde, pour être précis. Mais on peut aussi mesurer des durées encore plus courtes. Alors, dis-moi, Massy, laquelle de ces fractions de seconde est la plus petite? A, une microseconde. B, une nanoseconde. Ou C, une attoseconde.
Une attoseconde!
Oui! Bonne réponse! Une attoseconde équivaut à un trillionième de seconde. On peut même pas s'imaginer à quel point c'est ridiculement minuscule. Et c'est ce qui conclut notre quiz!
Quoi? C'est tout? Ça l'en met pas assez vite?
Ben, une attoseconde, ça passe vraiment plus vite que ça.
Raph, tu viens de parler de l'attoseconde. Mais savais-tu que le temps, ça peut paraître tellement grand ou tellement petit selon l'échelle de temps qu'on utilise? Par exemple, savais-tu qu'un débrouillard de 10 ans a vécu environ 315 millions de secondes?
Ha! Son vieux!
Ben, si tu trouves que leur vie est longue, ben dis-toi que c'est rien comparé à l'âge de l'univers, qui serait de 13,8 milliards d'années. Imagine qu'on ramène tout ça à l'échelle d'une année de 365 jours.
Ouais...
Eh bien, si le tout début de l'univers, le Big Bang, était le 1er janvier, eh bien, la formation de notre galaxie, la Voie lactée, aurait eu lieu le 1er mai, au printemps, et la Terre se serait formée le 14 septembre, au début de l'année scolaire.
OK, puis la vie humaine?
Eh bien, notre espèce, l'Homo sapiens, serait apparue le 31 décembre à 23h56.
Comparé à l'âge de l'univers, l'humanité ne vaut qu'un vulgaire 4 minutes. Oh, on est juste des miettes.
Ouais, et pour comprendre un peu à quel point le temps, ça peut être vertigineux quand c'est à grande échelle, j'ai invité Albert Einstein pour nous en parler.
Bonjour, Massy, c'est ça? Je suis venu pour l'entrevue.
Bonjour, Monsieur Einstein. On avait rendez-vous à 15h. Il est déjà 15h30. Vous avez eu un petit pépin sur la route ou...
Oh, eh bien, le temps est relatif, mon cher. Il peut s'étirer ou se contracter.
Hein?
Eh bien, c'est très simple. Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne suis pas venu ici en bicyclette, ni en voiture et ni en avion. Je suis venu à bord d'un vaisseau spatial qui voyage à près de 99% de la vitesse de la lumière.
Pour vrai?
Non, bien sûr, j'ai pris le métro, comme tout le monde.
Ah.
Mais si j'avais un vaisseau qui voyageait aussi vite, le temps s'étirerait par rapport à un observateur à l'extérieur de ce vaisseau, sur la Terre, par exemple. On appelle cette théorie la relativité restreinte et c'est moi qui l'ai élaborée.
J'ai absolument rien compris. Toi, Raphaël?
Pas tout à fait, non.
Prenons l'exemple de deux jumeaux. Le premier jumeau décide de rester sur Terre. L'autre, lui, décide d'embarquer dans le vaisseau et de voyager pendant un an à 99% de la vitesse de la lumière. Eh bien, il faut savoir qu'à cette vitesse, le temps s'étire et un an dans ce vaisseau correspond à 7 ans sur la Terre. Ainsi, à son retour, le jumeau du vaisseau aurait vieilli d'un an et celui resté sur Terre aurait vieilli de 7 ans. Donc l'astronaute va retrouver son propre frère jumeau, 6 ans plus vieux. C'est comme s'il avait voyagé dans le futur.
Wow, ben c'est le truc parfait pour vieillir moins vite. Il suffit de voyager à bord d'un vaisseau intergalactique. Fini les crèmes anti-rides pour la peau.
Malheureusement, c'est pas vraiment possible, parce qu'il n'y a aucun vaisseau qui s'approche réellement de la vitesse de la lumière.
Mais alors, cette théorie nous est utile pour faire quoi exactement?
Eh bien, on s'en sert entre autres à comprendre comment se comportent certaines particules microscopiques ou pour ajuster les calculs de la Station spatiale internationale autour de la Terre, où le temps s'écoule très très légèrement différemment.
Merci pour toute cette information, Einstein. Selon les pays, être à l'heure, être en retard, ce n'est pas la même chose. Prête pour un petit tour du monde, Raphaël?
Absolument.
Et c'est parti!
Premier arrêt, le Japon. Les Japonais sont reconnus pour leur ponctualité. Quand on a un rendez-vous, il faut même arriver 5 minutes d'avance. Arriver plus tôt, c'est impoli, mais arriver en retard, c'est carrément inacceptable.
C'est un peu la même chose en Allemagne. Si ton rendez-vous est à 11h, par exemple, tu arrives à 11h top chrono. Les retards et les absences sans raison valable sont très mal vus et peuvent avoir des effets négatifs sur tes relations avec les autres.
Au Sénégal, c'est aussi préférable d'être ponctuel, mais plusieurs raisons peuvent justifier un retard ou une annulation. La pluie est même une raison acceptable pour ne pas se rendre au travail ou à l'école.
Mais c'est la même chose en Algérie, tu sais, Raphaël. Au travail, les retards sont plus facilement acceptés, surtout lorsqu'il y a des imprévus liés à la famille. La famille dans les pays maghrébins, c'est la priorité.
En Inde, finalement, la patience est une vertu. Bon, évidemment, les gens arrivent à leur rendez-vous d'affaires ou pour prendre le train, mais entre amis, c'est rare que des rendez-vous sont donnés à heure fixe. Quelqu'un va te dire « Je vais venir te voir ce soir ». Ben, ça peut vouloir dire à 19h ou à 22h. Est-ce qu'on fait une entrevue, Massy?
OK.
Oui, allô?
Oui, bonjour, David Saint-Jacques. C'est Raphaël et Massy du Guide de survie des débrouillards.
Salut, David.
Hey, bonjour, Raphaël. Bonjour, Massy. Comment ça va?
Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. C'est la première fois qu'on parle à un astronaute dans notre balado. On est très excités.
Ah, ça me fait plaisir. C'est toujours une grande joie pour moi de parler à des jeunes.
Écoute, David, tu as été sélectionné comme astronaute en 2009. Et t'es parti dans l'espace en 2018, donc on parle de 9 ans plus tard. Est-ce que ça t'a paru long?
Ben oui, Massy, ça a pris du temps, mais ça m'a pas paru long. J'ai été tellement occupé pendant tout ce temps-là. J'ai eu 3 enfants pendant tout ce temps-là. J'ai appris à piloter, j'ai appris à utiliser le scaphandre, j'ai appris à la fusée Soyouz, j'ai appris à parler russe. Et en fait, j'ai pas du tout le souvenir que ça a pris du temps. Je regarde en arrière, je dis « Ah! » J'ai été choisi astronaute il y a 11 ans. C'est incroyable comment ça a passé vite.
Dans la Station spatiale internationale, le rythme des jours et des nuits ne dépend plus du soleil. Est-ce que ça fait que le temps s'écoule plus vite ou plus lentement?
Dans l'espace, vu qu'on vole autour de la Terre en orbite à peu près 8 km par seconde, ça fait qu'on fait le tour de la Terre en 1h30. Donc, à chaque 45 minutes, c'est le lever de soleil. 40 minutes plus tard, coucher de soleil. Lever de soleil, coucher de soleil, lever de soleil, coucher de soleil, 16 fois par jour. Donc, tu ne peux pas vraiment utiliser la lumière extérieure comme indice de quelle heure il est. Notre horloge interne, on la calibre sur le fil des événements. Donc, c'est très important de se structurer un début à la journée de travail, une fin à la journée de travail. Il y a du temps pour le loisir, il y a du temps pour l'exercice, il y a du temps pour parler aux amis. Et des fois, c'est comme ça, je trouve, maintenant qu'on est un peu avec la pandémie, qu'on est restreint dans ce qu'on peut faire, dans nos sorties. Ça m'aide, moi, de garder cette habitude-là que j'ai développée dans l'espace, de vraiment bien structurer ma journée. Le temps, c'est vraiment une ressource précieuse. Donc, il ne faut pas le gaspiller. Il faut le remplir. Et lorsqu'on réussit à concentrer notre esprit sur quelque chose qui nous intéresse, ah, là, le temps, on dirait, se dilate et devient intéressant et devient un trésor. Pendant les 7 mois où j'étais à bord, je suis allé dehors une fois en mettant le scaphandre. Ça prend à peu près 1 semaine de préparation avant de pouvoir sortir dehors.
Une semaine?
Oui! Tu sais, le gros scaphandre blanc d'astronaute qu'on imagine, là, c'est pas vraiment des vêtements. C'est comme un mini vaisseau spatial à forme humaine. Donc, il faut le préparer, s'assurer qu'il est bien sécuritaire. Après ça, ça prend comme 8 heures juste le mettre et pouvoir sortir dehors.
Après ce long voyage dans l'espace, est-ce que tu perçois le temps différemment maintenant?
J'ai été assigné à la mission spatiale 2 ans et demi avant le départ. Et j'ai été, pendant plusieurs années comme ça, toujours parti en Russie, au Japon, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, pour suivre différentes formations. Et là, je vais dans l'espace. Quand je suis revenu sur Terre et que j'ai pu prendre ma fille dans mes bras, elle avait 3 ans. Moi, depuis ce temps-là, j'ai comme du temps à rattraper comme papa avec ma famille. C'est comme un grand luxe.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci. Merci, les débrouillards.
Merci beaucoup.
On voit souvent l'attente comme quelque chose de négatif, hein? Pourtant, quand on a hâte à un événement heureux, ça peut aussi être une source de bonheur.
Ça, c'est vrai. Quand je sais là, que je pars bientôt en vacances, c'est sûr que j'ai hâte, j'aimerais ça y arriver plus vite, mais l'attente peut quand même être agréable. Tu peux en parler à ton entourage, tu regardes les photos de l'endroit où tu t'en vas, ça fait rêver.
Bon, ben on le voit, le temps, c'est relatif et parfois, ça vaut la peine d'attendre.
Oui, et aussi...
Bonjour, est-ce que je peux vous aider?
Oh, Massy, je viens d'avoir la ligne. Peux-tu faire la conclusion tout seul?
OK. Bye, là! C'était le guide de survie des débrouillards, un balado de Radio-Canada Audio et du magazine Les Débrouillards, avec Raphaël Derome, qui est au téléphone, et moi-même, Massy Mayou. Merci à Julie Champagne qui prend le temps de trouver toutes les réponses à nos questions et à Philippe Marois qui s'assure que le balado n'est jamais trop long. Cependant, c'est vrai que c'est plus long quand je suis tout seul, par contre. Hein. Merci à notre invité David Saint-Jacques. Merci également à la psychologue Sylvie Royer et aux débrouillards de tous âges qui ont répondu à nos questions.
Merci les débrouillards, Massy et Raphaël, pour nous éclairer en science. Sachez que vous pouvez bien sûr, les enfants, retrouver tous les épisodes des débrouillards sur Radio-Canada Audio. Vous allez sur notre page RFI.fr, 7 milliards de voisins. Et puis ensuite, directement, vous allez sur le lien pour arriver sur la version longue du podcast, du balado scientifique, pardon. On se quitte jusqu'à demain. C'est l'enseignant Gérard Sans Faute qui prendra les commandes de l'école à la radio avec, vous vous en doutez, des maths, les notions de proportionnalité pour arriver où, à votre avis ? Eh bien, pour arriver à la règle de 3. Alors, ne ratez pas le rendez-vous. Et d'ici là, vous postez vos messages, les enfants, les jeunes, sur le WhatsApp 337 64 45 51 41. On se quitte avec le choix musical de Romain Dubrac, la rappeuse ougandaise Awori et le producteur lyonnais Twani. Flesh it out, make a print, they like to copy the original. This shit right here is seminal. Maybe sometimes I get sentimental, but if you fuck up, I go animal. Impersonal, even in digital, I be in your mind like a pivot bowl. Buy me a house, make it presidential. Sign out that shit, bitch, I'm quintessential. They said, shawty goes back to they said, working these waves like dread. Shawty still but stainless. Yes, yes, they said, shawty goes back to they said, working these waves like dread. Shawty still but stainless. Bitch, I had enough. Sip a little something from the devil's cup. Get away from my flavor. Jesus Christ, I'ma be your savior. Didn't have to fall for us, risen up. Not about being dead or in the look. Work, work, work like Riri. Fenty beauty, tutti fruity. No need to bring me down, cause I'm too high up and I'm too profound. Circus is being down, cause I coughed you up, my favorite clown. No need to bring me down, cause I'm too high up and I'm too profound. Circus is being down, cause I coughed you up, my favorite clown. Shawty goes back to aces, working these waves like dreads. Shawty still but stainless. Yes, yes, they said. Shawty goes back to aces, working these waves like dreads. Shawty still but stainless. Yes, yes, they said. Shawty goes back to aces, working these waves like dreads. Shawty still but stainless. Yes, yes, they said. Shawty goes back to aces, working these waves like dreads. Shawty still but stainless. Yes, yes, yes. L'école à la radio, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Vous nous réécoutez tant que vous voulez toutes nos émissions en podcast. Et demain, on se retrouve avec vos messages 33 7 64 45 51 41. Dans quelques secondes, le journal sur RFI.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur RFI.